Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et ça y est, il est 8h et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vraiment un sale temps pour le porte-monnaie. 8 Français sur 10 disent qu'ils se serrent la ceinture. Énième conséquence de la guerre au Moyen-Orient à laquelle Sébastien Lecornu va tenter de répondre ce soir en faisant des nouvelles annonces. Avis de tempête, vous verrez, sur Roland-Garros qui commencera dimanche. Les joueurs de tennis vont faire comme une grève demain pour demander de meilleures primes. Et le soleil, oui, de retour. On sera à Toulouse dans ce journal où on aura un avant-goût de l'été dès aujourd'hui.
Nous sommes le 21 ce matin et énormément de Français sont déjà dans le rouge.
8 Français sur 10, oui, racontent qu'ils sont obligés de se serrer la ceinture et de faire attention à chaque dépense, d'après le dernier baromètre Elab pour BFM TV. C'est un chiffre qui est en hausse de 4 points sur les 4 derniers mois et ça coïncide avec la guerre au Moyen-Orient qui a fait flamber les prix des carburants et à la consommation. Il manque 500 euros chaque mois pour vivre correctement, disent les deux tiers des Français. Écoutez la preuve avec Antonin Audion pour RMC.
Depuis quelques mois, Mylène a changé ses habitudes lorsqu'elle fait ses courses.
Je regarde beaucoup plus. Par exemple, dans les supermarchés où je vais, il y a le scan achat. Et donc, je vais faire beaucoup plus attention au total avant de remplir le panier davantage. Et en effet, un panier de courses avant à 100 euros où il y avait énormément de choses, maintenant on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose.
Cette mère de famille qui habite dans la Creuse est donc obligée de faire des choix.
Moins consommer, on achète moins, un petit peu moins de plaisir finalement aussi à la famille. C'est méga frustrant pour quelqu'un comme moi.
Mylène essaye donc de trouver des solutions pour consommer pas cher.
Par exemple, dans les primeurs, ils font des paniers anti-gaspi.
7 Français sur 10 se sont mis à acheter dans les rayons anti-gaspi selon l'étude. Alexia a pris cette habitude il y a quelques mois et elle économise à chaque passage en caisse.
Un bon 40%. Là, si par exemple j'avais été dans mon magasin habituel, j'aurais payé le double. Ça compte clairement. Effectivement, le concombre, il peut être un peu tordu, la carotte un peu plus petite, mais voilà, pas de problème avec ça. On est très contents qu'ils soient en bas de la maison.
En plus de ces rayons anti-gaspi, les bons de réduction et la seconde main sont de plus en plus utilisés par les Français.
Et voilà donc dans quel contexte le Premier ministre Sébastien Lecornu fera de nouvelles annonces à 17h tout à l'heure sur les prix et les carburants et plus largement sur toutes les conséquences économiques de cette guerre au Moyen-Orient. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC en direct ce matin. Sébastien Lecornu a déjà promis un changement d'échelle dans le dispositif, mais ce ne sera pas généralisé.
Ah non, on va plutôt rester sur un goutte à goutte. Pas question d'ouvrir les vannes, de baisser les taxes par exemple. Le Premier ministre va le marteler cet après-midi. Son cap ne varie pas. Les aides resteront très ciblées, uniquement destiné à soutenir l'activité économique et dans un contexte budgétaire qui ne peut que se dégrader dans les mois qui viennent. Autrement dit, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de garder le pied sur le frein. C'est pour prendre le temps de cette explication que Sébastien Lecornu a donc convoqué pour la première fois une conférence de presse cet après-midi. Préparer les esprits aussi à des décisions difficiles, prévient son entourage. La promesse, c'est tout de même que les travailleurs gros rouleurs soient plus nombreux à être soutenus. Les soignants, par exemple, attendent beaucoup. Les secteurs professionnels aussi, en plus des agriculteurs, des pêcheurs, du BTP, on attend des annonces dédiées aux taxis ou à d'autres secteurs impactés comme l'industrie de la chimie. Et parce que l'État ne peut pas tout, le Premier ministre réfléchit aussi à inciter les entreprises à prendre leur part en versant, par exemple, des primes à leurs salariés qui roulent beaucoup.
Et hasard du calendrier, j'en profite pour vous rappeler que c'est le dernier jour pour déclarer ses revenus en ligne jusqu'à 23h59, ce soir précisément dans les départements qui vont des numéros 01 à 19, autrement dit de l'1 jusqu'à la Corrèze. Les autres auront un petit peu plus de temps. Il y a plusieurs maires qui prennent la parole depuis hier soir, ceux de Paris, de Lille, Saint-Étienne, Brest, Marseille aussi. Tiens, Marseille, c'est RMC qui vous l'a révélé, pour demander à Patrick Bruel de renoncer à ses concerts prévus, vous le savez, à partir du mois prochain dans une cinquantaine de villes. Lui qui est accusé de violences sexuelles par une trentaine de femmes est visé par 5 enquêtes, 4 en France et une en Belgique, où il y a d'ailleurs ce nouveau témoignage ce matin. C'est celui d'une attachée de presse qui accuse le chanteur d'agression sexuelle en 2010 dans les locaux de la télé belge. Écoutez ce qu'elle dit avec Amélie Courtet.
Dès l'arrivée de Patrick Bruel en Belgique, des taquineries légères, ambiguës, fusent.
Mais très très vite, ça devient pour moi un harcèlement.
Je suis devenue sa proie, raconte Karine Viseur. En permanence, il cherche son contact.
J'aurai toujours sa main soit dans mon dos, soit dans mon cou. Il ne demande pas, il ne demande jamais. Il n'a pas de limite en fait.
Et personne ne lui en met jusqu'au soir où elle se retrouve seule avec lui dans un couloir de la RTBF, le média public belge.
Il m'attrape par le poignet et m'attire dans la toilette qu'il ferme à clé. Il essaye de m'embrasser, ses lèvres dans mon cou, ses mains qui caressent mes jambes, qui remontent sous ma robe. Je m'isole, mon cerveau est ailleurs.
Elle dit non à plusieurs reprises, Patrick Bruel n'écoute pas.
J'arrive, heureusement, à me défaire de ce et je continue à la promotion du film.
Pendant 15 ans, Karine Viseur enfouit ce traumatisme. Aujourd'hui, comme une trentaine d'autres femmes, elle sort du silence.
Je sens que les paroles se libèrent. Ça demande énormément de courage parce que je suis entachée et c'est à vie.
Elle salue les élus qui appellent le chanteur à ne pas se produire dans leur ville. C'est honorable, respectueux envers les victimes, dit-elle.
Voilà pour le récit d'Amélie Courtet avec ce témoignage recueilli par BFM TV. Tiens, j'ai des nouvelles rassurantes à vous donner. Ousmane Dembélé, ce matin, il pourra jouer a priori la finale de Ligue des Champions dans 9 jours, touché au mollet le week-end dernier. Mais ça va le faire, c'est ce que dit l'attaquant lui-même dans un entretien exclusif à RMC. À ne surtout pas manquer ce soir à 18h dans l'émission Roten sans flamme. On peut pas faire plus français comme information. Il y aura grève des joueurs de tennis demain lors de la présentation du tournoi de Roland-Garros qui commencera dimanche. Les vedettes du circuit en fait demandent une meilleure redistribution des recettes dans les tournois du Grand Chelem. Ça faisait un petit moment que ça a monté cette colère et il y aura donc comme une grève demain, Eric Salio.
Oui, les prises de position lors du tournoi de Rome, avec notamment une menace de boycott de la part d'Arina Zabalenka, la numéro 1 mondiale, vont avoir une suite demain à Roland-Garros à l'occasion du Media Day. C'est une journée où traditionnellement les stars accordent une heure de leur temps avec des interviews exclusives au profit des télévisions qui payent très cher des droits. Et là, on se dirige vers un service minimum, à savoir 15 petites minutes de conférence de presse, une action forte et totalement inédite qui place la Fédération française dans une position très embarrassée. Une réunion avec les agents est envisagée demain après-midi, mais on n'est pas à l'abri que cette initiative s'étende durant toute la quinzaine.
Bon, et je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de pluie pour les premiers jours du tournoi de Roland-Garros. Vous savez qu'on surveille ça chaque année. On passe niveau météo d'un extrême à l'autre. On avait de la pluie, même de la neige, il y a une semaine pour le pont de l'Ascension, avec des températures qui étaient 5 degrés en dessous des normales de saison. Et on bascule brutalement, là, soudain, dans une ambiance estivale avec des températures qui seront jusqu'à 10 degrés au-dessus, cette fois, des normales. On va dépasser les 30 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest, à Bordeaux, à Biarritz et à Toulouse aussi, où notre correspondant Jean-Wilfried Forquès s'est obligé de changer sa garde-robe.
Lali et ses collègues ont attendu l'arrivée de la chaleur pour installer dans les rayons de cette boutique de vêtements la collection été.
Une collection un peu plus colorée, un peu plus fine, qui fait du bien pour l'été.
Et une couleur est à l'honneur pour ces journées ensoleillées.
On veut du renouveau, on veut quelque chose qui pepse et on a besoin de jeunes pour quelque chose qui pepse. On marque vos esprits, on met de la couleur.
De leur côté, les restaurateurs comme Alexandre Saint-Louis ont installé leur terrasse protégée par de grands parasols.
Les gens ils se mettent en extérieur, ils viennent enfin profiter des beaux jours et du beau autant. On met en place aussi des brumisateurs pour que les gens puissent apprécier enfin cette fin de printemps et ce début d'été qui arrive à grands pas.
Après le froid, il faisait 17 degrés en début de semaine, mais surtout la pluie des derniers jours. Les Toulousains sont ravis de retrouver la chaleur.
Ça arrive un peu tôt, mais on est habitué. Donc on va pas se plaindre, on a eu suffisamment de pluie.
Là, il va faire très chaud. Les ventilateurs vont être de sortie. On prend des petits coups de soleil, mais on se protège.
Dans les prochaines heures, à Toulouse, le mercure va flirter avec les 30 degrés.
Mais alors attention, on peut pas parler de canicule, hein. On peut dire que c'est une vague de chaleur hein, quand même, puisqu'on va être nettement au-dessus des normales sur la durée, avec un pic qui est attendu mardi prochain, nous dit Géraldine.
C'était le journal de Quentin Vinès et l'heure de l'économie, 8h08.